Cette semaine, avec Daniel Habert, on revient sur les frappes iraniennes qui ont touché Israël et leurs conséquences géopolitiques au niveau mondial. Voici donc l'avis de notre géopolitologue maison au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors samedi soir, l'Iran a lancé 331 missiles et drones sur Israël. 99% ont été interceptés. Suite à cette attaque, l'Iran a réclamé cette attaque. Alors, pour commencer, Daniel Hébert, avec vous, premier point, l'irruption de l'Iran dans ce conflit, est-ce un tournant dans ce qu'il se passe actuellement à Gaza et au Moyen-Orient?
Oui, enfin, on parle souvent tous les deux devant à conversation de tournants depuis 6 mois. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs tournants. Vous vous souvenez, par exemple, pour le Ramadan, on disait ça va être un tournant, il va se passer des choses épouvantables. Biden est même allé à la télévision en disant qu'il faut absolument éviter les émeutes du Ramadan. Vous voyez, il ne s'est rien passé. Donc, faut se méfier des tournants qui n'en sont pas. Mais là, plus qu'un tournant, je dirais que c'est une clarification. Et c'est une clarification d'abord de la centralité de l'Iran dans le conflit. On ne fait depuis 6 mois que parler du Hamas et l'Iran se cache prudemment derrière ses proxys, que ce soit le Hamas ou le Hezbollah, mais c'est bien l'Iran qui est devant nous. Et puis, mes deuxièmes clarifications, c'est aussi la politique américaine, la politique extérieure américaine. Elle était assez ambivalente, ambiguë pendant 6 mois. Là, elle s'est clarifiée aussi par le fait que les Américains, non seulement se sont rangés du côté israélien, mais ont participé à l'arrêt de ces 99% de succès dans la destruction des missiles en vol. Donc, voilà deux clarifications tout à fait essentielles.
Alors, deuxième point que nous souhaitions aborder ensemble, Daniel Habert, ce sont les clarifications dont vous avez parlé. Où se place l'Iran aujourd'hui dans la géopolitique mondiale après cette attaque?
Oui, c'est surtout la position de l'Iran qui est clarifiée de la façon suivante. Au fond, je retiens 5 points que je voudrais citer rapidement. Le premier point, c'est que l'Iran a une stratégie cohérente depuis 1978, depuis que les ayatollahs sont au pouvoir. Ils ont toujours décrété que leur objectif, c'était la mort d'Israël. Et ben, ils sont conformes à l'objectif. Et pour la première fois, depuis non seulement 1978, mais peut-être même dans l'histoire des relations entre les Perses et les Hébreux, l'Iran a attaqué Israël. Donc c'est une première. Et ça, c'est une clarification. On a un ennemi majeur, c'est l'Iran. Cet ennemi a pris soin depuis 50 ans qu'il est au pouvoir de construire un réseau qu'on appelle l'axe chiite, un réseau d'alliés, on dit des proxys, c'est-à-dire des représentants qui travaillent pour lui dans le mal. Ces proxys ont été armés, financés, motivés par l'Iran. Ils sont au nord d'Israël, c'est la Syrie, l'Irak et le Liban avec le Hezbollah. Mais on oublie souvent que les Palestiniens, qui sont des sunnites, ont été embarqués par l'Iran dans cet axe chiite, tout simplement parce que les Palestiniens, se disant au fond trahis par leurs frères sunnites, qui ont fait la paix avec Israël, se sont jetés dans les bras de l'Iran, en espérant, grâce à l'Iran, faire aboutir le rêve réel des Palestiniens, c'est-à-dire la mort d'Israël. C'était le slogan qui avait été celui de toutes les émeutes depuis 6 mois partout, notamment dans les pays arabes, mais aussi en Occident, de la mer à la rivière, libérer la Palestine. Donc on voit bien que ce dispositif mortifère pour Israël vient de trouver ici une sorte de non pas d'aboutissement parce que ça c'est une défaite pour l'Iran heureusement, mais un point d'orgue, ce tournant dont vous parlez ou cette clarification. Le deuxième, c'est que on comprend mieux que ce qui a commencé le 7 octobre, ça visait, et c'est pour ça que l'Iran a probablement eu un effet majeur dans cette attaque du 7 octobre, c'est d'éviter la constitution au sud d'Israël d'un axe sunnite face à l'axe chiite des Iraniens. Et donc, il fallait d'urgence, d'autant que les négociations entre l'Arabie saoudite et Israël, avec évidemment le support américain, avançaient très très bien. Il fallait mettre le holà à tout ça, et d'une certaine manière, ça a réussi. Le troisième point, c'est que l'objectif de l'Iran, c'est de créer du chaos. C'est de créer du chaos dans l'Occident. Il en veut à tout l'Occident, Israël n'étant que la première ligne de l'Occident. Et ce qu'il cherche à faire, l'Iran, c'est d'une part diviser l'Occident, notamment entre les visions que peuvent avoir les Américains et celles que peut avoir l'Europe. Et d'une certaine manière, ils y arrivent. Mais c'est surtout de diviser les sociétés occidentales à l'intérieur d'elles-mêmes. Au fond, c'est ce qu'on voit, ce chaos à l'intérieur de nos démocraties. On s'étonne toujours pourquoi rien ne marche, pourquoi les peuples sont énervés de leur gouvernement. Il faut voir que derrière, il y a cette action déstabilisatrice de tous ceux qui contestent l'Occident. Il y a l'islam, derrière aussi la Russie, peut-être la Chine, c'est un peu moins sûr, mais en tout cas au moins l'islam. Et cette division, elle s'assoit sur le fait qu'à l'intérieur des sociétés occidentales, il y a des minorités actives qui sont elles-mêmes anti-occidentales. Et c'est d'une part un certain nombre de musulmans radicaux qui vivent en Occident, qui ont pris souvent les nationalités des pays où ils habitent. Ils sont américains, ils sont français, ils sont belges, ils sont allemands, mais ils sont anti-occidentaux, ils veulent conserver leurs valeurs et ils s'appuient sur les libertés démocratiques pour mettre en jeu les libertés démocratiques. Et ils trouvent dans tous ces pays-là une partie des populations locales qui sont au fond à l'extrême gauche, hein, il faut dire les choses comme elles sont. En France, c'est les insoumis. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les wokistes, l'aile gauche aussi du Parti démocrate. Et vous avez une fusion entre l'islam radical et l'extrémisme de gauche, qui s'appelle le wokisme aux États-Unis, qui s'appelle l'islamo-gauchisme en Europe. Et tout ça brise en partie, explique une partie des difficultés que rencontrent les démocraties occidentales. On n'en a pas assez conscience parce qu'on est dans une forme de déni ou de manque de prise de conscience. Et là aussi, c'est une clarification. Le quatrième point, c'est que s'appuyant sur cette minorité active, les anti-occidentaux à l'intérieur de nos sociétés empêchent donc les démocraties de fonctionner et de se redresser et de se dresser devant l'Iran. On a ces blocages chez nous qui nous empêchent de prendre conscience et de réagir à ces agressions. Et là, le fait qu'il y a eu des missiles envoyés sur un pays occidental, entre guillemets, qui est Israël, je crois que c'est aussi une clarification. Et puis la dernière, c'est que le Hamas, qui n'est pas chiite, qui est sunnite, comme je le disais, et ça explique aussi en partie pourquoi le Hamas a attaqué le 7 octobre et que peut-être il a eu des motivations qui lui sont propres, qui ne sont pas seulement celles de l'Iran, parce que souvent il y a une discussion, est-ce que le 7 octobre c'est le Hamas ou est-ce que c'est l'Iran? C'est probablement une partie des deux. En s'appuyant sur l'Iran, sur le Hamas, pardon, l'Iran a obtenu deux résultats majeurs, c'est que la question palestinienne est revenue au centre et qu'ils en sont devenus, eux, les Iraniens, les supports principaux. Et deuxièmement, c'est que le Hamas a pu faire fonctionner son propre réseau, qui s'appelle la confrérie des frères musulmans, qui sont de par le monde. Et donc, vous avez eu, de la même façon que vous avez une fusion entre l'islam et le gauchisme dans nos sociétés, vous avez ici une fusion entre les chiites et les sunnites, tous dirigés vers le même but, la haine anti-juive, et derrière la haine anti-juive, la haine anti-occidentale. Et donc voilà toutes ces clarifications qui ont été apportées par cette attaque, et je pense que la conclusion pourrait être que Israël a bien fait, finalement, de s'attaquer à ce quartier général de la force Al-Quds, qui tenait une réunion, certainement pas pour parler du bien d'Israël, hein, certainement pour préparer un mauvais coup, qui tenait une réunion à Damas, dans une annexe du consulat, ce qui a permis à l'Iran de dire c'était l'Iran qui a été attaqué, donc ça justifie l'attaque. Mais donc, je crois que l'initiative qu'a prise Israël était bienvenue, parce qu'elle a fait apparaître cette clarification. Et je crois qu'à partir de maintenant, à partir de ce qui s'est passé samedi et dimanche, je pense que les choses ne seront plus tout à fait les mêmes. Il y a une véritable clarification qui va engager l'avenir.
Daniel, pour finir, il nous reste 2 minutes. Beaucoup de voix s'élèvent en disant que si le président Donald Trump avait été au pouvoir, ça ne se serait jamais passé. Quel est le rôle des Américains là-dedans?
Oui, alors on ne peut pas dire ça parce que on ne peut pas faire de politique fiction ici à conversation. Restons simplement sur au fond, les ambivalences et les ambiguïtés ou les contradictions internes de la politique extérieure américaine. Et on ne la comprend que si on part pas sur, que si on part d'Obama. Obama, en 2011, c'était son premier mandat, a décidé de changer complètement la politique extérieure américaine. Il a pratiqué ce qu'on a appelé le pivot et il a dit en gros: ma focalisation désormais pour les États-Unis, c'est le défi chinois. Du coup, le défi européen et le défi moyen-oriental, on le met un peu de côté. Pour l'Europe, on laisse les Européens se débrouiller eux-mêmes. Vous avez vu que, on a vu qu'en 2009, quand la Russie s'en est pris à la Géorgie, ou même en 2014, quand elle a envahi la première fois la Crimée, les Américains n'ont pas bougé. Et ils ont dit aux Européens, débrouillez-vous. Et là, même là, maintenant, on voit bien, et vous avez raison, Trump dirait la même chose, hein, je crois que ce n'est pas très différent, aux Européens, débrouillez-vous vous-même. Donc ça veut dire, nous, les Américains, on veut plus trop se mouiller. Et c'est au fond la même chose au Moyen-Orient, où on a vu qu'Obama a cherché à faire un apaisement avec l'Iran, avec ce traité sur l'accord nucléaire en 2015, mais Trump, qui est sorti de l'accord, il a fait autre chose, lui. Il a fait les accords d'Abraham, qui est une autre façon de se retirer du Moyen-Orient en disant: vous, Israéliens, et vous, Saoudiens, Égyptiens, etc., défendez-vous vous-même, faites des accords entre vous avec Israël. Nous, on sera derrière, hein, on va gérer de loin, comme disait Obama. Et Biden, lui, a repris ces deux visions européennes et moyen-orientales. Nous, les Américains, on ne fait plus qu'agir de loin. Débrouillez-vous, vous êtes au premier rang. Et donc, c'est ça aussi qui est apparu. Et ça explique aussi, on va en terminer là peut-être, que Biden s'en prend au fond personnellement à la fois à Bibi, mais aussi à Zelensky, parce qu'il met en avant, il clarifie toute cette complexité de la politique extérieure américaine qui va devoir faire des choix difficiles. Ils vont peut-être essayer de les retarder, mais il faudra bien qu'un jour, ils comprennent que et l'Ukraine et Israël sont en première ligne de la défense de l'Occident face aux Russes et face à l'islam.
Bien sûr. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et eh bien on espère qu'il ne se passera rien cette semaine en tout cas ou pas grand-chose. Merci d'avoir été avec nous et on apporte tout notre soutien à l'État d'Israël. Merci Daniel Haber.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine.